Bonjour, c'est la MJ de Rascol, au micro de CFM et il va y avoir plein d'interventions. Moi c'est Younes.
Moi c'est Foued.
Premier intervenant dans cette émission, Sacha, salut Sacha.
Bonjour, je m'appelle Sacha, je vais vous présenter Hocus Pocus, un beau groupe de hip-hop.
On passera ensuite avec Fanny, du côté de l'Espagne.
Bonjour, moi c'est Fanny, je vais vous raconter l'Espagne.
Et qu'est-ce que tu vas me dire dans ce sujet?
Je vais parler de l'Espagne en général, parce que j'aime ces pays, c'est mon origine.
Ensuite c'est à Melissa qui va nous parler de Ginali.
Une toute jeune chanteuse.
Salut Melissa.
Bonjour, je m'appelle Missa, je vais vous parler de Ginali, c'est une chanteuse que j'ai adorée.
Salut Asdin, tu vas nous parler de Zinedine Zidane.
Salut à tous, je m'appelle Asdin et je vais bien sûr vous parler de Zinedine Zidane, ce qu'il a fait, ce qu'il est en ce moment, enfin, je vous raconterai plus tard.
À tout à l'heure. Alors salut Charlie Marine, vous allez nous présenter Rihanna.
Bonjour, moi c'est Marine.
Bonjour, moi c'est Charlie.
On va vous parler d'une artiste qu'on aime beaucoup.
Rihanna.
Pourquoi vous l'aimez autant que ça?
Bah moi personnellement j'aime bien son style de musique.
Ouais moi c'est pareil, j'aime ce qu'elle fait, son style et tout.
On retrouve tout à l'heure dans l'émission.
Ouais, tout à l'heure.
Et Denis joue avec nous aussi, Virginie Sarvaez qui nous a aidé à faire l'émission.
Oui, bah bonjour à tous. Bonjour la MGI de Rascol et CFM Cordes. Entre autres, merci de nous accueillir pour la troisième année consécutive. Et puis, ben, je pense que ça va être encore une émission explosive avec des sujets exaltants. Et voilà, je souligne surtout qu'ils ont tous mis beaucoup d'ardeur et de travail à le faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Ça s'appelle MJ Connexion.
Les ados à la radio.
C'est parti.
J'attends que la marée noire monte, que les pluies soient assises, que le CO2 nous asphyxie quand la nuit s'épaissit. J'attends qu'il fasse chaud en hiver comme au mois d'août, que je sois allé sur terre comme un poisson dans le mazout. J'attends un peu plus d'électricité dans l'air, quitte à respirer de l'oxygène 100% nucléaire. J'attends que la ville soit clean, que les têtes s'inclinent et que le taxi monte sa clé. Patient, vivant sous perfus d'espoir. J'attends le déluge des soirs, ou demain peut-être. En attendant, j'attends que mon dîner crame, avec un mal au crâne, une sale mine et plus d'oliprane. J'attends le bus de la volonté. J'ai pas de ticket, il me laisse pas monter. Je fume ma clope en attendant le cancer. Garde la patience, j'en ai un de plus à voir qu'en faire. J'attends.
I'm waiting.
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 J'attends. J'attends que la terre tourne. Pour en voir le côté sombre, côté son, j'attends pas pour leur botter le fion. Seulement, puis un moment, j'attends que personne ne trouve plus ça triste de voir un SDF qui crève dans sa piste. Développé et pas est-il civilisé, mais on attend que l'extrême passe pour se mobiliser. J'attends tout des autres, et eux attendent tout des autres. Ceux-ci même qui attendent tout de moi. J'attends cette émission, où c'est le dernier qui tient sur le bout de bois. Même si je sais que dedans se fout de moi. Depuis septembre, j'attends le 11 pour le nouvel épisode. Et pour ce que je pense, j'attends qu'on m'emprisonne. Pour ce que je dis, j'attends la chaise. Et pour ce que je fais, pas de malaise. Puisque je fais rien et j'attends. J'attends.
I'm waiting.
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 J'attends. J'attends que mes proches meurent. Pour leur dire je vous aime fort. Et j'attends que là-haut on me réserve le même sort. J'attends en regardant ces vieux séniles gouverner. Je les écoute sans jamais me sentir concerné. J'aimerais stopper l'attente mais je reste hyper zen. J'attends qu'ils s'étouffent en bouffant leur bretzel. J'suis né bling bling là, les dreads zen. Égoïste, j'suis pas là pour ceux qui voudraient de l'aide. J'attends que ma main se tende toute seule. Juste un instant de doute, j'attends. Dernier moment pour réagir. J'attends de toucher le fond pour quitter le navire. J'attends. J'attends,
j'attends. I'm waiting.
J'attends,
j'attends. I'm waiting.
J'attends.
Voilà, on vient d'écouter Hocus Pocus. Et on va. Sacha qui est juste à côté de moi là, qui va j'attends. Nous expliquer qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui est ce groupe. J'attends. Salut Sacha, ça va?
Ah, ça va bien. J'attends. Bon, ben ce groupe a été créé en 1995 à Nantes. Il est inspiré du jazz américain des années 90. En 1997, ils ont sorti un premier album, une première formule, mixtape.
Sacha, est-ce que je peux me permettre de demander le mixtape, qu'est-ce que c'est? Tu sais pas trop, vous avez une idée?
C'est pour préparer un album en fait.
Ah d'accord.
Ouais, c'est pour C'est un avant-goût, quoi.
D'accord, ouais, c'est... très bien. Ah, un single, ok, voilà. Ouais, merci.
Non, moi, c'est pas un single. Ah. Une mixtape, c'est un album, c'est un avant-goût, en fait.
Oh.
C'est pour dire, après, il y aura un album.
C'est un extrait.
Voilà, mais ça peut être aussi, comme dit. Donc, finalement, chaque version est juste. D'accord. Ouais. Merci, les garçons.
Ils rencontrent un DJ, Green, et ils sortent leur deuxième formule. Après ça, le groupe commence à se disperser. Mais Vensil continue de son côté. En 2001, ils recommencent à travailler ensemble et sortent le Maxi Malade en février 2005. Ils sortent l'album 73 touches, mais il ne marche pas comme prévu. On leur reproche de ne pas avoir mis assez de titres. Il sera réédité en 2006 avec 7 titres en plus, avec le titre hip-hop qui fera un carton. En avril 2008, il sort l'album Monsieur Tout le Monde. Le groupe projette de sortir un nouvel album en 2010. Vensil devient parfois ennuyeux et trop répétitif. Mais il n'oublie pas de faire l'éloge de cet album travaillé si entraînant. Toujours aussi agréable à l'écoute, le mix se veut encore plus soigné qu'avant. De quoi mettre l'encens sur la musicalité, l'orchestration, carte maîtresse de la formation. On retrouve donc la même veine artistique qu'auparavant, avec une atmosphère tantôt jazzy, tantôt soul. Un esprit résolument positif et des thématiques simples, afin qu'un maximum d'auditeurs puissent s'y retrouver.
Et toi, qu'est-ce qui te fait craquer au niveau de
J'aime bien les sons qu'ils font.
Une parole, non,
non ouais, voilà,
ils ont des bonnes paroles aussi,
aussi.
Ils ont des bonnes paroles. Ouais. Okay.
Merci Sacha, à bientôt.
Et puis on trouvera Fanny pour un sujet sur l'Espagne.
MG Connexion.
Les ados à la radio.
Salut Fanny.
Salut, ben moi je voulais parler de l'Espagne, dire que la vie c'est différent là-bas. Ils vivent plutôt le soir parce que la journée il fait chaud.
Par exemple, quand tu dis le soir, c'est
la nuit.
À partir de quelle heure le matin, ils sont quand même, c'est actif, non
plus, ils sont plutôt dans le travail, non, ils travaillent plus. La journée ils travaillent, le soir ils font la fête, non?
Non, c'est le soir ils travaillent.
D'accord.
Et la journée ils font la fête?
Je sais pas.
Non, alors par exemple, quand tu nous, je sais que tu m'en avais parlé au niveau des, pour nous donner une idée, c'était au niveau est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que les magasins ouvrent ou quand est-ce que, comment ça se passe au niveau scolaire, les lycéens vont quand même à l'école le matin, mais c'est l'après-midi ça s'arrête parce qu'ils disaient qu'il fait chaud, mais et après, au niveau des magasins ça se passe comment par exemple, c'est quoi leurs horaires?
Ils ouvrent pas à 27h.
Ah, et le matin, donc si on a envie, je sais pas, d'aller acheter du pain ou quelque chose comme ça, il y a rien d'ouvert.
Il y a que les magasins alimentaires, à mon avis, qui doivent être ouverts toute la journée, puis le soir. Non, mais comment ça se passe? Les boutiques où on achète les vêtements et tout ça, c'est fermé la journée?
Le matin, non, et l'après-midi, oui.
Ah ouais, c'est comme au bled un peu.
Comme au bled?
Ouais.
Toi, t'arrives de quel bled,
Younes? Maroc, Algérie.
Ah d'accord, donc c'est pareil.
Ouais.
D'accord, ok. Alors ensuite, Fanny, tu voulais nous parler de... nous dire quoi d'autre? Il y a combien d'habitants en Espagne?
46 millions.
46 millions d'habitants.
Ah, ils sont moins qu'en France, en fait. France, on est 60 millions. 65 millions.
Oui.
T'as de la famille en Espagne?
Oui, j'en ai.
T'es déjà allé?
Oui.
Combien de fois environ?
5 ou 6 fois.
T'es où d'Espagne?
Vers l'Andalousie, là-bas.
Alors après, je sais pas, moi, la capitale d'Espagne, c'est...
C'est le Madrid.
C'est Madrid. Sinon, quelles sont les autres choses que tu compares avec la France de différent? Est-ce qu'il y a, par exemple, au niveau de je sais pas moi, de la vie de tous les jours, est-ce que tu penses que la vie est plus facile, elle a l'air plus facile en Espagne qu'en France, ou l'inverse, ou c'est pareil?
Je pense que c'est un peu plus facile en Espagne.
D'accord. Alors dans quel sens à peu près?
C'est moins cher.
À tout point de vue?
Par contre, les loyers, tout ça, c'est plus cher.
Les loyers sont plus chers. Oui, je crois que là où c'est moins cher, c'est au niveau par exemple de l'essence ou des choses comme ça.
Oui. Et aussi là-bas, on n'a pas des aides comme ici. Pour les familles qui ont beaucoup d'enfants et tout ça.
D'accord. Ah, ça n'existe pas. Comme tu veux dire, par exemple, comme les caisses d'allocation familiale.
Non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Non.
Et comment font les familles, alors, à ce moment-là?
C'est plus dur qu'en France. pour vivre et tout ça, par rapport à ça.
D'accord. Donc les gens vont plus se débrouiller autrement,
oui.
Vont plus...
Travaillent plus.
Est-ce qu'ils cultivent aussi plus leur terre, ont leur petit bout de jardin ou...
Ben oui, il y en a.
D'accord.
Pour avoir plus de sous.
Alors par contre, au niveau des... Tu parlais également de ce qui est un peu étonnant, parce qu'en France, il n'y en a quasiment plus. Mais tu m'avais dit une chose que j'ai notée également au niveau du téléphone, c'est qu'il y avait beaucoup de cabines téléphoniques en Espagne.
Oui.
Alors quand nous, chez nous, ici en France, c'est une petite anecdote, hein, mais moi ça m'a frappée, puisque nous, il n'y en a quasiment plus. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet ?
Ben, il y a beaucoup de cabines téléphoniques en Espagne, mais elles sont souvent prises par les pèlerins.
Alors, quand tu parles des pèlerins, c'est-à-dire à quel niveau ? C'est des gens, les touristes,
oui, les touristes.
Entre autres, d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Après, le portable, c'est très utilisé aussi ?
Non, le portable, c'est moins utilisé.
C'est CFM avec la MJI Connexion.
Dans quelques instants, dans MJI Connexion.
Reportage, tribunal d'Albi.
Voilà, donc je suis le président du tribunal de grande instance d'Albi, Dominique Bartou. En même temps, le président du CDAD, qui est le conseil départemental d'accès au droit. Et c'est à ce titre que je suis ici, aujourd'hui, parmi vous.
Alors, donc Stéphanie Senot-Choix, moi je suis coordonnatrice du CDAD. Donc, je suis juriste, donc on donne des renseignements juridiques aux personnes qui sont confrontées à des problèmes qui peuvent concerner donc différents types de droits, droit de la famille, droit pénal, droit du travail. On leur explique quelles sont les démarches qu'ils vont devoir accomplir. Et puis, à l'extérieur du tribunal, j'interviens notamment dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes sur l'organisation judiciaire et sur les droits et devoirs qu'ont les mineurs. Voilà. Donc, on essaye de mettre en place donc une politique départementale d'accès aux droits en faveur donc des usagers et notamment des jeunes. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions concernant la justice.
Quels sont vos rôles à chacun ? De quel domaine précisément vous occupez-vous ?
Alors, en me présentant, j'ai indiqué que j'avais une double qualité, celle de président du tribunal de grande instance, mais aussi celle de président du conseil départemental d'accès au droit. Donc, c'est par référence à cette double qualité aujourd'hui que je vais présenter mes activités. Pour ce qui me concerne, donc, ma qualité de président du tribunal de grande instance, je vous répondrai que je suis avant tout donc un magistrat du siège. Si vous préférez un synonyme, je vais vous dire que je suis un juge. Et qu'à ce titre, j'ai vocation, comme tous mes collègues du siège, à juger des affaires, que ce soit en matière civile ou que ce soit en matière pénale. Alors, en matière civile, pour vous donner un ordre d'idée, eh bien, ça peut être une affaire de droit des assurances, ça peut être une affaire de droit de la construction, ça peut être une affaire de droit de la famille. Et la matière pénale, qui est peut-être davantage connue parce qu'elle est la vitrine des tribunaux, ça va être la présidence des audiences correctionnelles. Donc, président du tribunal de grande instance, je suis avant tout un juge à part entière, mais j'ai également en cette qualité vocation donc à animer l'équipe des magistrats du siège du tribunal de grande instance. C'est-à-dire que j'ai un travail de gestion et d'administration. Alors, tant au niveau des ressources humaines que du budget. Alors, s'agissant des ressources humaines, eh bien, j'ai la responsabilité de l'équipe qui est constituée par en tout 9 magistrats du siège. J'organise les plannings, les audiences, j'assure la répartition des différentes charges de travail entre les uns et les autres. Et j'ai pour rôle de bien veiller au bon fonctionnement, bien évidemment, de ce tribunal. S'agissant du budget, avec le procureur de la République, donc qui représente les magistrats du parquet et le greffier en chef, j'ai vocation également à gérer le budget de la juridiction sur toutes ces implications. Et pour vous donner un exemple, ben, nous réfléchissons aux travaux, par exemple, à entreprendre sur la juridiction. Bon, il s'agit de gérer le budget dans son ensemble exactement comme on le fait dans un ménage, dans une famille, si ce n'est que là, c'est à échelle beaucoup plus grande, bien évidemment. Et je vous ai parlé également d'un volet de mes activités, qui est la présidence du Conseil départemental d'aide et d'accès au droit. Alors, il est essentiellement animé donc par Madame Sonneau-Choix, ici présente, hein, qui est coordonnatrice donc de ce service. C'est elle qui, avec d'autres personnes, en lien avec d'autres personnes, le fait vivre au quotidien. Mais nous sommes appelés à réfléchir d'une manière assez régulière, hein, plusieurs fois par semaine, aux actions et aux orientations à prendre dans le cadre de cette activité. Donc Madame Sonneau-Choix vient me voir régulièrement pour que nous arrêtions ensemble des objectifs. Je donne mon sentiment sur telle ou telle action. Voilà ce que je peux dire en résumé sur mes activités.
Ah oui, moi je peux. Bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc coordonner le service, donc c'est bien mettre en place les projets d'action que nous définissons donc avec le président et avec un ensemble de membres qui composent notre structure. Après donc il y a trois personnes qui travaillent au sein du CDAD et notamment donc on est deux juristes qui recevons les usagers donc qui ont des questions, on essaye de leur expliquer, de trouver des solutions, éventuellement de les orienter vers des professionnels, vers l'avocat, le notaire, qui sont des auxiliaires de justice, qui vont les aider dans la représentation, dans la défense de leurs droits. Et puis également, on peut écrire des courriers à la place de ces personnes-là ou les aider lorsqu'elles ont des difficultés dans la rédaction, dans la compréhension de documents. Donc après, je vous ai dit que j'allais dans les établissements scolaires. Donc on a une convention avec l'inspecteur d'académie, renouvelée chaque année, où on essaye de rencontrer un maximum de classes avec lesquelles nous travaillons sur plusieurs modules. Donc je vais jusqu'à trois fois dans la classe et ces élèves viennent également participer à une audience du tribunal correctionnel pour voir un petit peu comment se déroule un procès pénal. Et après, nous nous mettons en situation d'un procès qui a été jugé par le tribunal des enfants. Voilà, pour essayer donc de leur apporter un maximum d'informations sur la justice, comment est rendue la justice en France, notamment à l'égard des mineurs. Donc aussi, le CDAD intervient dans les maisons d'arrêt, donc à l'établissement pénitentiaire, pour donner des renseignements juridiques aux détenus. Voilà, après, on fait partie de beaucoup de commissions, toujours qui tournent autour de l'accès au droit. Notre souci est d'essayer de rendre l'accès à la justice et au droit le plus facile possible pour les usagers, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lois, c'est pas évident donc à saisir, même nous, c'est difficile parfois pour nous, et on essaye donc de faciliter cet accès-là aux personnes.
La MJ du lycée Rascol,
au micro de CFM.
Pourquoi lui, par exemple, est-ce toujours le même juge qui préside ?
Alors, la réponse est simple. Pourquoi est-ce toujours le même magistrat qui est chargé, on va dire, de toutes les affaires concernant les mineurs ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un magistrat qui est spécialisé. C'est un juge des enfants, donc qui a été nommé par décret à cette fin. Alors, si ce magistrat est absent pour des raisons variées ou tout simplement en congé, il peut être remplacé par un autre juge du tribunal de grande instance, puisqu'il faut savoir que lorsqu'un magistrat est nommé dans un poste de juge, il a vocation à exercer toutes les fonctions du siège. Hein. Tous les magistrats ont reçu une formation commune qui est exactement la même. Et donc, ils ont vocation à exercer un jour ou l'autre cette fonction. Mais au quotidien, il est normal que les audiences, par exemple, du tribunal pour enfants, soient toujours présidées par le juge des enfants, puisqu'il a été nommé précisément à cet effet, à cette fin. Alors j'y vois un avantage, c'est quelqu'un qui a un intérêt particulier pour ce contentieux. Et c'est également quelqu'un qui va suivre des formations spécifiques, particulières. Et donc le justiciable a tout intérêt à se retrouver devant quelqu'un qui connaît parfaitement cette matière et ce contentieux.
Si c'est toujours le même juge des enfants, et que c'est souvent la même personne qui se retrouve devant le même juge. La même juge va savoir quel est le comportement en force ou va comment expliquer ça. elle va savoir en gros qu'est-ce qu'est la personne. Tandis que si ça change de juge des enfants, ils n'auront pas le même point de vue.
Alors, c'est précisément où vous auriez effectivement pu poser la question à ces termes. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Moi, je n'y vois pour ma part, sauf situation extrême et particulière, je n'y vois que des avantages, puisque lorsqu'un juge des enfants connaît bien un jeune, eh bien, elle va avoir une connaissance approfondie de sa personnalité. Et il y a moins de risques d'appréhension dans le traitement du dossier. Elle va aussi connaître sa famille, et enfin, de mon point de vue, c'est véritablement un avantage. Alors que si on survole la personnalité de quelqu'un, si on en a une connaissance très fragmentaire, très superficielle, le risque d'erreur est plus grand. Là, me semble-t-il, on limite autant que possible le risque d'appréciation.
Faut-il des raisons particulières pour être émancipé? Si oui, quelles sont-elles?
Oui, alors, je crois que la question avait également un complément. Tous les jeunes peuvent-ils en faire la demande? Et j'ai envie de répondre déjà par cela. Ce ne sont pas les jeunes qui vont faire la demande d'émancipation. Il faut bien le prendre en considération, sauf une exception sur laquelle il n'est pas utile que je m'attarde, parce que c'est une hypothèse d'espèce qui est quand même assez rare. En réalité, ce sont les parents qui font la demande d'émancipation, l'un ou l'autre des parents, ou les deux. Et bien que la question ne m'ait pas été posée, j'y réponds par anticipation, il faut avoir 16 ans au moins pour pouvoir être émancipé. Alors, faut-il des raisons particulières pour être émancipé? Oui. Et si oui, quelles sont-elles? Alors, je vais vous dire, bien sûr qu'il faut des raisons. Et le texte de loi prévoit qu'il faut de justes motifs. Quant à savoir quelles sont ces raisons, fort heureusement, le législateur, dans sa grande sagesse, n'a pas dressé un catalogue bien précis des raisons qui pourraient justifier une émancipation. On ne peut pas imaginer tous les cas de figure sociaux, culturels, on va dire, qui pourraient se présenter. Je crois que c'est un cas d'espèce. Hein. Lorsque la question se pose et lorsque les parents ont fait le choix de faire une demande d'émancipation pour leur enfant, eh bien, ils viennent soumettre cette demande au juge des tutelles qui va décider si oui ou non il convient de faire droit à la demande d'émancipation. Il n'est pas envisageable, de toute façon, d'émanciper un jeune homme ou une jeune fille sans qu'il ait été au préalablement entendu. L'audition de ce mineur est une étape absolument indispensable. Pour pouvoir être émancipé, eh bien, il faut être déjà en capacité d'être complètement autonome, de se débrouiller soi-même. Beaucoup de jeunes gens de 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans, parce qu'ils poursuivent parfois de longues études, ne sont pas en capacité d'autonomie, et ont besoin de l'aide financière de leur famille. Bon, vous allez me dire, ils sont majeurs, de fait, ils n'ont pas besoin d'émancipation, mais en réalité, ils sont émancipés, si vous voulez, ou majeurs, sur le papier, mais ils ne le sont pas, de fait. De fait, moi, je considère qu'on est véritablement émancipé quand on n'a plus besoin de son père ou de sa mère pour se débrouiller dans la vie et pour être autonome.
Lorsqu'un délinquant passe au tribunal pour outrage à agent, et que lui-même a été agressé par ses agents, le juge l'écoutera-t-il? Car souvent, il y a un sentiment d'impunité vis-à-vis des forces de police. En tout cas, pour ceux qui se comportent mal.
Moi, j'ai envie de vous dire, parce que en fait, vous êtes en train de m'interroger un petit peu sur la responsabilité des services de police. J'ai envie de vous dire que si on fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police, hein, ça arrive à n'importe qui, eh bien, il faut tout simplement déjà s'y soumettre. Voilà. Premier point, et éviter de toute évidence de se mettre dans une situation de difficulté. Alors, vous sembliez me dire peut-être que l'outrage à agent pourrait être une réponse à un comportement un peu inadapté ou excessif des policiers. Alors, moi, je n'ai qu'un conseil à donner, à supposer que cette situation se produise. Eh bien, déjà, garder le contrôle de soi,
en toutes circonstances, ne pas déraper. Vous diriez ne pas péter un câble ou un plomb, hein. Je crois que c'est plutôt, j'imagine, proche de votre vocabulaire. Et à partir de là, si vous êtes pas resté parfaitement calme, mais si vous êtes resté parfaitement serein, ben déjà il n'y aura pas de procédure à agent d'outrage à agent de la force publique qui sera adressée contre vous. Et si vous estimez que le fonctionnaire de police ou gendarmerie a eu un comportement qui n'était pas adapté, ben vous pourrez toujours le dénoncer au procureur de la République, ce comportement-là, ou au supérieur hiérarchique de l'intéressé.
FGI Connexion.
Écoutez bien, vous ne nous entendrez qu'une seule fois.
Est-ce que le cannabis va être vraiment légalisé en France, comme on l'entend dans différents médias? Est-ce que le champ est légal?
Alors, moi je ne suis pas botaniste, hein, donc je ne vais pas pouvoir forcément m'expliquer sur toutes les variétés de chanvre. Alors le chanvre qui est utilisé pour le tissage, là je sais qu'on fait des tapis, on fait des tissus, etc. Bon, j'imagine, je dis bien j'imagine, hein, pourvu qu'il n'ait pas de principe actif tel que celui qu'on retrouve dans le cannabis, j'imagine que c'est quelque chose qui doit être légal, mais je vois pas très bien quel pourrait être l'intérêt d'en faire pousser. Alors, si vous avez envie de faire pousser dans votre jardin, je ne sais pas, une plante qui ressemble au cannabis mais qui n'en serait pas, de toute façon, je vous le déconseille fortement parce que ça vous vaudra des ennuis légitimes avec les services de police ou de gendarmerie qui essaieront de savoir exactement quelle est la nature de la plante que vous faites pousser. Je crois qu'il y a des variétés de plantes suffisantes pour que vous puissiez vous satisfaire suffisamment sans être en infraction ou en tout cas en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Alors, vous dites, est-ce que le cannabis va être vraiment légalisé en France? Alors, c'est le mot vraiment qui m'étonne, parce que, alors, moi, j'en suis pas vraiment, hein, j'aurais plutôt entendu la question, est-ce que le cannabis va être légalisé en France? Et parce que, à mon sens, c'est vrai que par-ci, par-là, quelques personnes ont pu en parler, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Alors, c'est un vaste débat, c'est une vaste question, je ne crois pas qu'on puisse y répondre comme ça en 2, 3, ni même 30 secondes. Il faut véritablement argumenter. La réponse ne s'impose pas, je crois, avec force tout de suite. Hein. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que les pays qui ont légalisé donc le cannabis, tels que les Pays-Bas ou l'Espagne, a priori, ne sont pas des pays qui sont enchantés par le type de décisions qu'ils ont prises. Alors, je me suis positionné, si vous voulez, de manière neutre, là, hein, en disant est-ce qu'on doit autoriser ou pas. Je vous ai dit, ça suppose un débat de fond. Je suppose que ce qui vous intéresse, c'est que je vous donne mon avis. Et moi, je suis, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, je suis farouchement opposé à la légalisation du cannabis. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on en dise, c'est quand même un point de départ, ça peut être un point de départ vers des drogues plus dures. Et par ailleurs, je voudrais dire que lorsque, à propos du cannabis, on dit que c'est une drogue douce, je crois qu'on est véritablement dans l'erreur. On pouvait peut-être le dire il y a 15 ou 20 ans. On ne peut plus le dire aujourd'hui puisque ces plantes ont été génétiquement modifiées. Et leur taux en principe actif, hein, donc c'est la substance qui psychotrope qui va agir sur votre cerveau, qu'on appelle le THC, le tétrahydrocannabinol, eh bien, cette concentration en principe actif, du fait de la modification génétique de cette plante, a considérablement augmenté au cours de ces dernières années. À tel point que les spécialistes, hein, disent que fumer du cannabis dans un bang, par exemple, hein, ça équivaut donc à ingérer une forte quantité de cannabis qui est à peu près équivalente, disent-ils, à une injection d'héroïne. C'est la raison pour laquelle on n'est pas loin de la drogue dure. Je crois même dire qu'on est carrément dans la drogue dure. Et on a pu dire qu'il n'y avait pas de dépendance psychologique ou physique à ce produit. Écoutez, pour ce que j'en ai vu, alors je pense à un certain nombre de reportages que j'ai vus sur le sujet, il y a des jeunes gens autour de 19-20 ans qui étaient tellement accros au cannabis qu'ils ne sont pas arrivés à se sevrer de ce produit après avoir pourtant passé plusieurs mois dans des cliniques spécialisées. Et là, je vais faire référence plus particulièrement à mon expérience quotidienne. Nous voyons régulièrement à l'audience correctionnelle des jeunes qui viennent pour l'usage de cannabis, mais également pour la revente. Et bon, un certain nombre nous disent « Oh, ça y est, j'ai arrêté de fumer, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Comme par hasard, ils ont arrêté de fumer dès qu'ils ont été placés en garde à vue ou à l'audience. Mais ils sont minoritaires. La plupart de ces jeunes gens, très sincèrement, nous indiquent à l'audience qu'ils essaient de s'en sortir, mais qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'arrivent pas à décrocher du cannabis. On ne décroche pas comme ça, de toute façon, de ce qu'on appelle une addiction. C'est quelque chose qui est dur, qui est difficile, qui nécessite une prise en charge avec des thérapeutes qui sont spécialisés. Nous préférons que les gens nous disent la vérité à l'audience. Oui, nous préférons entendre de la bouche de quelqu'un qui nous dit « j'essaie de m'en sortir, mais j'ai besoin d'aide ». Faut être sincère.
Si la France légaliserait le cannabis en France.
Oui, c'est légaliser le cannabis.
Ouais. Mais c'est légaliser le cannabis, ça serait beaucoup plus mieux pour eux. Déjà niveau crise, et il y aurait moins de délinquants, de stupéfiants dans les cités qui vendent et tout ça.
Votre question est tout à fait pertinente et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas possible de répondre tout de go oui ou non. Il y a vraiment des arguments très lourds en faveur de l'une ou l'autre thèse. Et ce que vous avez dit, effectivement, encouragerait vivement à légaliser le cannabis, puisque ça pourrait permettre à la fois de doser déjà le principe actif qu'on retrouverait dans le produit, pour ne pas en faire un produit trop dangereux, et ça permettrait de mettre un terme à toute cette économie souterraine, qui est insupportable, à ces trafics qu'elle engendre. Nous sommes bien d'accord. Les spécialistes en parlent pendant des heures sans pour autant arriver à dégager une idée qui se révélerait être la meilleure.
C'était un reportage avec le groupe MGI du lycée Rascol au tribunal d'Albi.
On va retrouver Mélissa dans quelques instants.
Ce n'est qu'une larme, juste un reste du passé dont je m'éloigne, mais qui ne cesse de me hanter. Ce n'est qu'une larme qui entaille mes pensées. Je retrouve mon âme, ton regard me donne envie d'avancer. Laisse-moi l'oublier, laisse-moi l'effacer, pour mieux tout te donner. Je ne peux tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots, non. Je ne peux tellement te dire que je n'ai plus peur, mais c'est mon seul défaut. Je ne dois plus recommencer une nouvelle fois. Baby, pardonne-moi si je fais un faux pas. Si j'aimerais tellement te donner ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots, non. J'ai oublié cette flamme qui avant de m'a brûlé, tes yeux me désarment. Je n'ose plus les affronter, mes rêves se fanent. Seul le temps pourra m'aider, mais quand tu t'éloignes, j'aimerais tellement tenir ce que veut mon cœur, mais
mais je n'ai plus les mots.
À l'instant, Jenali pour CFM. Et pour nous en parler, c'est Mélissa au micro. Alors, tu vas nous raconter un peu.
Salut Mélissa.
Qu'est-ce que Jenali?
C'est une jeune artiste de 21 ans. Jenali est auteur-compositeur, interprète. Elle marque sa différence dans un genre nouveau et imposé. Son style, le emo R&B, son vrai prénom est Sylvia Garcia. Adoptée en Chili à 9 mois, puis élevée à Oléron, Saint-Marie, dans le Pyrénées-Atlantique, Jenna apprend la musique avec pour seul instrument son magnétophone et un logiciel basique. Autodidacte, elle enregistre paroles et mélodies en mimant tous les instruments avec sa voix. Un de ses morceaux de jeunesse, Banalité, a attiré l'attention d'un éditeur, Vital Song, qui souhaite la signer. Les parents sont d'accord. Avec un bémol, le rituel, passe ton bac d'abord. Jenna l'obtient en 2005 et déménage définitivement à Paris en 2006. En 2007, on l'a contactée pour participer à la création de l'album du gagnant de l'émission Popstar. Elle finira par écrire et composer 5 titres sur l'album de Sheriff Aluna, Dolan Siegel quelque part, vendu à plus de 200 000 exemplaires, ainsi que, comme avant, single en duo avec Mathieu Edouard. Un artiste complète, Jenali ne se veut pas simple auteur de chansons. Ce que j'écris, je le ressens et j'ai envie de faire ressentir avec ma voix. Aussi forte de son expérience, elle veut aller plus loin que quelque part et révéler son côté obscur. Je suis un peu noire dans mes pensées, je suis fascinée par la mort, mais pas suicidaire pour autant. Je suis optimiste, mais avec un côté nihiliste, je n'arrive à écrire que quand je me sens pas bien. Après avoir gagné l'Oxford Music Tour et un concert à la boule noire, elle s'inscrit au concours Urban Music Nation et se retrouve finaliste à Planète Rap sur Skyrock, où elle chante en live. Elle gagnera le concours le 26 décembre 2008 et remporte un contrat avec label Mercury Universal. Jenali se remet vite au travail pour l'enregistrement de son premier album. Elle rencontre Busta Funk qui réalise l'album et c'est le guitariste de Silmaril, Jimmy, qui amène ce son distinctif, signature de son emo R&B qu'elle a conçu et qu'elle porte sur ses épaules. Ainsi, cette jeune artiste co-réalise son premier album entièrement conçu par elle à partir de 90 titres qu'elle avait marqués. Le premier single, J'aimerais tellement, a connu diversion avant de trouver sa forme définitive. Pour l'illustrer, Jenna a craqué sur Benjamin, un dessinateur chinois dont les mangas ressemblent à des aquarelles photographiques. Les innovations sonores du Elmo R&B de Jenali trouvent un écho graphique dans les animations de Benjamin, faisant un clip de J'aimerais tellement. Une carte de visite idéale pour cette nouvelle artiste, à part, pas vraiment. Je ne veux pas être à part, c'est ça le truc, je veux que les gens se reconnaissent dans ce que je fais. Ce que je vis, beaucoup de gens le vivent aussi. Une jeune fille comme les autres, une chanteuse qui ne ressemble à personne, Jenali débarque, amène avec elle son emo, R&B, marque en fer rouge, des guitares et de l'émotion.
Votre merci, Mélissa.
MJI Connexion.
Écoutez bien, vous ne nous attendrez qu'une seule fois.
Vous êtes toujours sur CFM Radio de la classe du
MJI Connexion.
Et on va parler avec Azine qui va nous parler de Zinedine Zidane. Salut Azine, ça va?
Salut à tous.
Salut. Donc bonjour à tous, je m'appelle Azine. Et en faisant attention, j'ai les mêmes lettres que Zidane. Et bien sûr, je vais vous parler de Zinedine Zidane, qui est une idole, une légende pour les Français. Donc Zinedine Yazid Zidane est né le 23 juin 1972 à Marseille et il était footballeur international. Son poste était le milieu offensif et il a commencé sa carrière professionnelle à Cannes de 1988 à 1992. Puis il est allé à Bordeaux en 1992 et en 1996. Il a été aussi sélectionné dans l'équipe de France, précédemment dans les France Espoirs. Après, il a changé de club et de pays pour aller à la Juventus en Italie de 1996 à 2001, puis son dernier club en Espagne, le Real Madrid, de 2001 à 2006. Et il a fait son dernier match à la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie le 9 juillet 2006 en marquant un superbe pénalty nommé Panenka.
Lorsqu'il a mis aussi à la fin le coup de boule.
Ah oui,
on n'a pas oublié. Fameux
coup de boule.
Dit, on l'oublie pas celui-là.
Bon. Le pauvre, il a mal fini. Enfin, pour son dernier match, ouais. Ouais, carton rouge.
Ouais, la raison.
Mais ça reste un grand joueur.
Ouais, ça reste une légende du foot. Ouais.
Champion 98.
Oui, voilà. Ouais.
Faut le préciser aussi, son fils qui est aussi fort que lui. Fait des ravages en Espagne, Real Madrid.
Enzo Zidane. Ouais. Il a amené la France à la finale de la Coupe du Monde 98 et il avait remporté la Coupe du Monde contre le Brésil en marquant 2 buts de la tête. Et 2 ans plus tard, en 2000, il avait remporté aussi la Coupe d'Europe.
Il a déjà eu le Ballon d'Or ?
Oui, il a eu le Ballon d'Or dans les années 2000, si je me souviens bien.
D'accord.
Comme Messi cette année, en 2010.
Voilà. Donc Zidane est cité dans les légendes du football mondial et des meilleurs joueurs français avec Michel Platini. Il a fait beaucoup de matchs contre la pauvreté aux côtés de Ronaldo depuis 2003 et les finances récoltées, ils les utilisent pour la lutte contre la pauvreté. Et ils vont bientôt aussi faire le match pour Haïti pour les aider à financer les dégâts. Zidane est d'origine de Kabylie en Algérie et a aidé sa région à financer les besoins comme l'eau. Même si sa carrière est achevée, Zinedine Zidane tire des revenus de ses divers contrats publicitaires. Et il apparaît à la télévision pour des marques comme Adidas, contrat courant jusqu'à 2007, Canaplus, Danone, contrat courant jusqu'à 2015, Generali Assurance, Grand Optical, Orange, 450 000 euros annuels. Et oui, il gagne plus en publicité qu'en match, de quoi faire rêver. Même si... Oui.
Il a quitté le terrain, mais toujours au sein du club. C'est un assistant du club.
Il est
un conseiller.
Consultant de Canaplus, c'est ça?
Non, du club du Real de Madrid, il est toujours conseiller là-bas, il travaille toujours là-bas.
Ouais. Ouais, il est ambassadeur du Real Madrid.
Et conseiller à la fois.
Même si Zinedine Zidane ne joue plus au foot, avec ses tirs, ses dribbles, son magnifique et unique jeu de jambes, il restera toujours gravé dans la mémoire du football français, mais aussi mondial. Malgré sa triste fin de carrière de foot, il aura toujours écrit Zidane sur le maillot numéro 10.
Et son fils qui va prendre la relève, donc faut pas l'oublier ça. Ouais.
On te remercie Asdin.
Le prochain Zidane.
On se retrouve avec Rihanna, c'est Charlie et Marie qui nous en...
qui nous en cause.
Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for keeps, take the gun. Count to three, I'm sweating now, moving slow, no time to think, my turn to go. I'm terrified.
CFM Radio, un autre artiste tout de suite dans MJI Connexion. Salut Charlie, salut Marine.
Salut Charlie, salut Marine.
Salut.
Comment vous allez?
Ça va.
Bon alors, vous voulez nous présenter un sujet et ça parle de Rihanna, non?
Oui, alors on va vous parler de Rihanna. Alors Rihanna, de son vrai nom, c'est Robin Rihanna Fenty. C'est une chanteuse barbadienne. Elle est née à Saint-Michel à la Barbade le 20 février 1988.
Où ça se trouve, les Barbades?
Dans l'océan du Pacifique.
Ah ouais, quand même.
Oh, ok.
Alors, elle passe une enfance relativement calme dans une famille composée. Son père, il est irlandais et africain. Sa mère, guyanaise, et elle a deux petits frères. Elle fait toute sa scolarité à la Barbade. Et pendant qu'elle est encore au lycée, elle fonde un trio avec deux de ses camarades en classe.
Mais en Barbade, ils parlent anglais?
C'est quelle langue là-bas?
Parce que ces musiques, elles sont toutes en anglaise. Enfin, elles chantent tout anglais.
Ben oui. Alors, en 2004, elle remporte un concours de beauté et se produit lors d'un spectacle en faisant une reprise de Héros de Mariah Carey. Au début de l'année 2005, elle quitte Saint-Michel pour s'installer aux États-Unis pour se consacrer à sa carrière musicale tout en poursuivant ses études aux côtés d'un tuteur privé. Le premier single de Rihanna est Pond de Replay, qui prépare un album intitulé Music of the Sun. Son style est un mélange de R&B, de dancehall et de reggae. Elle a formé la chanson It's Lovin' That You Went après l'apparition de Pond the Replay. Par la suite, elle a formé une chanson appelée SOS Rescue, suivie de Un Swan's Fool, qui a remporté un Energy Music Awards dans la catégorie chanson de l'année 2006. Par la suite, Rihanna créera une association caritative nommée Believe, qui veut dire croire, qui vient en aide aux enfants malades, et enregistrera son troisième album studio Good Girl Gone Bad, Music of the Sun. L'album du début de Rihanna, qu'elle a co-écrit, a été libérée en août 2005.
La première chanson qui a été sortie de l'album était Pond the Replay, qui fait numéro 2 des US, Billboard Hot Sound. L'album lui-même a fait une montée dans le top 10 au Canada et aux États-Unis, et dans les 40 au top du Royaume-Uni. Il a reçu des certifications de platine de plusieurs pays, et a reçu une certification d'or aux États-Unis par la RIAA Gold and Platine, créée en 1958 dans le but de mettre en place un baromètre des ventes d'un enregistrement audio pour favoriser plus longtemps l'album.
On se retrouve avec une belle rencontre qu'on a fait avec Fouad et Younes, avec le recruteur du TFC.
Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Alors je me présente, Younes. Je voulais vous poser des questions. Comment avez-vous fait pour devenir recruteur?
Alors déjà pour devenir recruteur, déjà depuis tout petit je suis passionné de football. Et après, j'ai eu la chance d'être issu d'une famille de footballeurs. Donc, vu que dans ma famille, il y a beaucoup de footballeurs, eh bien, j'ai eu la chance qu'un jour, on me propose le poste. Il y a 6 saisons de ça et j'ai accepté. Et depuis, ça fait 6 ans que je travaille pour le TFC.
Ça vous plaît?
Oui, beaucoup.
Que remarquez-vous en premier chez le joueur quand vous allez le voir?
Bon, alors, la première des choses, on regarde les qualités naturelles, c'est-à-dire la vitesse, la détente, la coordination. Après, ce qu'on regarde, c'est les qualités techniques, technique de dribble, technique de frappe, passe courte, passe longue, jeu de tête. Et après, très important, c'est le troisième, c'est le mental, c'est-à-dire c'est l'état d'esprit, le comportement, c'est l'esprit compétiteur, tout ça. C'est le plus important, je pense. 60% de la réussite d'un futur pro.
Bonjour, moi c'est Foued. Avez-vous passé des étapes avant de faire recruteur?
Non, c'est juste en fait que je suis passionné de foot. Depuis tout petit, je regarde le foot et c'est comme ça en fait que... Et un jour, on m'a proposé le poste et j'ai accepté. Bon, au début, j'étais bénévole les 2 premières saisons. Et de là, maintenant, je suis à tiers-temps. C'est-à-dire parce que je fais ça uniquement le week-end. Je suis pas à plein temps.
Vous recrutez des joueurs juste sur Toulouse ou un peu de partout?
Alors en fait, sur le département de la Haute-Garonne, c'est un collègue à moi qui s'en occupe, un autre recruteur. Moi, je fais essentiellement le Tarn. Mais après, quand mon responsable me demande d'aller voir d'autres matchs, que ce soit à Montauban, Rodez, Toulouse, même mercredi, j'étais encore à Bordeaux, ben là, il m'arrive de partir ailleurs que sur le Tarn. Mais à 60% de mon temps, c'est sur le Tarn.
Vous preniez les décisions seules pour recruter un joueur?
Non. En fait, moi, ce que je fais, c'est que moi, je vais voir les matchs. Je fais mes observations, après de là je fais des rapports écrits, j'ai des rapports oraux également avec mon responsable. Et après, c'est toujours le directeur du centre de formation et le directeur du recrutement du centre de formation qui prennent la décision finale, qui valide, que ce soit pour faire venir des jeunes à l'essai en détection ou même pour une signature, pour intégrer le centre de formation. C'est toujours les responsables qui prennent la décision finale.
Jusqu'à quel âge peut-on devenir joueur professionnel ?
Alors en fait, pour devenir joueur professionnel, un joueur professionnel peut signer à partir de 16 ans, pas avant, pour premier contrat pro. Et jusqu'à, bon ben après c'est 30, 35, généralement une fin de carrière en moyenne c'est 35 ans. Mais généralement les premiers contrats professionnels sont signés entre 16 et 21 ans. Après, il arrive qu'il y ait d'autres types de joueurs qui signent plus tardivement, c'est-à-dire vers 23-25 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas forcément passés par un centre de formation, c'est-à-dire qu'ils sont passés par un club amateur, comme Albi par exemple. Ils ont joué en CFA, de là ils ont été recrutés après en CFA. On a d'ailleurs un exemple au TFC, c'est Dany Nonke, qui l'an dernier jouait à Pau en CFA. Il a été remarqué, recruté par le TFC. Et là, depuis cette année, il est professionnel. Il a joué 10-15 matchs de Ligue 1 en début de saison.
Et une fois que vous recrutez les joueurs, où sont-ils hébergés ? Il y a un centre sur Toulouse ou est-ce qu'ils reviennent toujours chez eux ? Ça se passe comment ?
Ben, en fait, depuis 2004, le TFC a construit son propre centre de formation. Parce qu'avant, ils étaient au CREPS, au sport-études de tout sportif de haut niveau sur Toulouse. Mais maintenant, on a notre centre de formation, uniquement pour les jeunes du TFC. Et il y a à peu près 55-60 jeunes qui sont hébergés. Ça va des 13-14 ans jusqu'à 19-20 ans, jusqu'à la CFA2.
Combien de temps restez-vous à regarder un joueur avant de le recruter ?
Ça dépend. Mais disons qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que moi, je suis surtout les jeunes qui ont entre 10 et 15 ans. Ce que je suis depuis l'âge de 10 ans, on va dire que je vais les suivre sur 2 ans à peu près en moyenne, 2 ans et demi. Avant, on les fait venir en stage des fois pendant les vacances scolaires. Et après, il y a aussi d'autres types, c'est-à-dire qu'après, il y a les, comme on appelle ça, un peu les oubliés qui jouent dans des petits clubs que forcément, on n'a pas trop le temps d'aller voir. J'ai un exemple, l'année dernière, c'est Youssef Ben Ali. Il jouait à Gaillac. Personne ne le connaissait et en fait, de là on m'a dit, il y a un jeune qui a signé Albi de Gaillac qui a des qualités, j'ai été le voir et ça a été très vite. Je l'ai vu une fois, il était remplaçant, je l'ai vu une deuxième fois titulaire. De là, bon, j'ai vu qu'il était au-dessus, qu'il avait des qualités, je l'ai fait venir faire un stage au TFC sur 2 jours. Et de là on m'a dit à faire signer urgent. Et depuis, l'année prochaine, il va rentrer au centre de formation.
C'est celui qui est à l'US en moins de 13 ?
Oui.
Je connais bien, très fort. Quelle est la fréquence des entraînements et à raison de combien d'heures par semaine ?
Alors la fréquence des entraînements, c'est-à-dire qu'en fait, les journées types au centre de formation, c'est réveil, petit déjeuner, et après c'est soit entraînement le matin, école l'après-midi, ou le contraire, école le matin, entraînement l'après-midi. Et généralement, les entraînements durent entre 1h et demie, 2h par jour.
D'accord, très bien. Il faut que du physique, et la moitié de la semaine physique et moitié la semaine du jeu. Ouais.
Physique, c'est ça. Technique.
Est-ce que les joueurs ont leur propre classe ou les mettent tous ensemble ?
En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui sont en BEP, il y en a qui sont en bac pro, il y en a qui sont dans des classes d'insertion, en fait, parce qu'ils ont des difficultés scolaires. Donc, en fait, ça dépend. Il y en a qui sont dans des lycées normaux, mais qui ont des horaires aménagés, ou dans des collèges. Et il y en a d'autres qui sont ceux qui ont énormément de difficultés ont 2 professeurs au centre de formation qui leur font des cours spécifiques.
Est-ce que le métier de recruteur est difficile ?
Difficile, oui et non. Parce qu'en fait, le plus gros souci dans le métier, en fait, c'est qu'on a toujours peur de passer à côté d'un bon joueur, étant donné que de nos jours, on a énormément de concurrence. Moi, je vois sur le Tarn ou sur la région Midi-Pyrénées. Il y a 3, 4, voire 5 clubs professionnels qui sont en permanence autour des terrains. Donc vu qu'il y a la concurrence, en fait, le plus dur, c'est d'être le premier, d'aller le plus vite possible.
Et est-ce que vous faites des recrutements de gardiens aussi, ou c'est autre chose, ça, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe ?
On fait également le recrutement de gardiens. D'ailleurs, on manque énormément de gardiens de but. Et après, par contre, quand ils intègrent une détection au TFC, là, c'est des entraîneurs de gardiens qui s'occupent uniquement de les noter, de leur faire des entraînements spécifiques gardiens.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir participé.
Au moins, on aura fait de la radio une fois. Ça fait plaisir.
Allez, ciao, bye.
Ciao. Ciao.
Toulouse.
Ciao.
À la prochaine.
Allez, à la prochaine. Salut.
Bientôt,
salut
ciao.
Tout le monde. Spéciale dédicace pour la Bête 7. Ali, Chef K, représente.
Et moi, je passe une spéciale dédicace au R81 LNT, bien sûr. Et Albi, hein.
Dédicace au rocker, hard rock. Dédicace à mon groupe Freelance. Etienne, Jérémy, etc. Tous mes amis, ma famille.
Dédicace à 7-6 Rouen, dédicace à 972 Madinina. Voilà, toute la famille de mon père aussi.
Une spéciale dédicace à CFM Radio, bien sûr.